Bon, je remercie peut-être tout d'abord le père Pascal Gilles pour l'invitation et de leur confiance pour les réflexions que je vais vous partager. Peut-être un petit mot d'introduction avant de démarrer dans les axes de la topographie. Ce colloque cherche vraiment à dégager des réflexions sur la pastorale, donc dans la pratique. Pour ma part, je ne suis pas praticien, du moins je ne le suis plus. J'ai été dans une vie antérieure, un entraîneur de jeunes, un directeur d'un petit club de jeunes et dans une école catholique aux États-Unis après ma licence universitaire. Donc j'ai une expérience du terrain où j'étais toujours très attentif à la question pastorale de l'éducateur, l'entraîneur. D'ailleurs, on appelle bien, peut-être corrigez-moi, hein, mais encore à l'époque, lorsqu'on passait des diplômes, on était des diplômes d'entraîneur-éducateur. Aujourd'hui, on est plus des entraîneurs. C'est drôle, hein, l'évolution, dans le temps. Mais donc, j'ai quitté un petit peu les terrains pour me mettre plutôt dans le couloir de l'université. Mais j'apprécie énormément l'échange depuis 2 jours ici. J'apprends énormément de vous, aussi de toutes ces expériences pratiques, ces initiatives, parce que parmi vous, il y a beaucoup de personnes engagées dans la pastorale. Vous êtes des bergers, en fait. Comme nous l'a rappelé Monseigneur Gobillard hier, le berger, le Christ était berger. Il était marcheur et un marcheur sportif. Donc, je vais vous demander de marcher avec moi un petit peu. On va voyager sur une topographie, sur des chemins, ce que j'appellerais des chemins internationaux, pour discuter des enjeux et des défis de la pastorale sportive au-delà de la France. Je me rappelle plus si en fait l'idée de la topographie c'était la mienne ou la vôtre. Si ça se passe bien, c'est certainement la leur. Si ça se passe mal, c'est la mienne. Alors, par topographie, qu'est-ce qu'on entend? On entend une sorte de cartographie du phénomène sportif. Je vais essayer de donner aussi des exemples qui viennent au-delà de l'Hexagone, parce que vous connaissez déjà bien mieux, très bien la France. Donc, on va essayer de parler aussi plus large, dans une dimension temporelle, parce que, évidemment, je suis historien. Et aussi thématique. Je ne vais pas vous faire un tour d'histoire, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais je vais axer autour de 3 parties. La première, c'est le sport dans son organisation politique. Deuxième point, c'est ce que j'appellerais le sport comme planète sociale. Donc d'abord, l'aspect politique, l'organisation du sport et les défis qui en découlent pour la question pastorale. Deuxième point, l'aspect social, le lien social du sport et l'identité sociale du sport. Et en troisième lieu, on va discuter de la particulière économie du sport, parce que je pense qu'elle est étrange parfois. Il y a des éléments économiques qui sont non négligeables. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure à la fin de la session précédente, où je ne sais plus qui disait, mais derrière les enjeux politique ou les choix dans l'organisation des JO de Paris, il y a aussi des questions économiques, il ne faut pas se leurrer. Ceci dit, je ne veux pas m'arrêter tout simplement sur un tableau descriptif. Le but, ce n'est pas faire de descriptif de ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment plutôt d'aller un pas de plus. Alors, c'est là où j'espère que la discussion sera très riche, pour essayer de dégager des défis d'ordre pastoral, si je peux dire comme ça, dans chacun de ces 3 domaines. Permettez-moi une petite parenthèse, parce que je pense que c'est utile et c'est intéressant, et puis je veux essayer de récolter un petit peu des idées, des possibilités. Depuis 15 ans, j'ai une chance immense d'enseigner dans un master international, celui-ci, le FIFA Master, qui est à vocation pour de former des futurs dirigeants du sport. Donc ça existe depuis une vingtaine d'années. Et je dois dire, c'est extraordinaire parce que j'ai tout le monde, vraiment tout le monde qui vient à moi. Chaque année, j'ai une trentaine d'étudiants qui viennent du monde entier. 30, sur 30 étudiants, j'ai une vingtaine de nationalités, tous les continents présents. Et ça m'apporte chaque année une nouvelle vision rafraîchie de ce qui se passe dans le monde du sport partout. Ceci dit, en 23 ans, aujourd'hui 23 ans, moi j'y enseigne depuis plus de 15, il y a très très peu de chrétiens engagés qui viennent chez nous. Donc, je fais ma petite part de publicité. Si vous connaissez des jeunes dans la trentaine, vingtaine, trentaine, qui ont des idées, des ambitions de travailler dans le monde international du sport, je sais qu'il existe des formations fantastiques au niveau français, hein. La France forme très bien pour la France, mais nous avons très peu de Français chez nous. Je sais pourquoi, parce qu'en fait, il existe déjà des filières en France. Sauf que pour les Français qui ont une vocation peut-être plus internationale, j'aimerais bien voir des Français chrétiens engagés qui viennent chez nous. Ce serait fantastique. Je le dis à titre personnel, hein. C'est vraiment une initiative personnelle pour ça. Et j'y reviendrai peut-être à la fin parce que j'ai passé toute la semaine dernière en cours avec mes étudiants et puis on a discuté des enjeux de recherche, des sujets de recherche potentiels pour leur mémoire. Et notamment, beaucoup de ces thématiques qui sont sorties sont en lien avec ces trois éléments-là. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là, et puis ça permet d'actualiser la réflexion. Et puis, surtout, ce que je voulais dire par là, c'est pourquoi je fais la parenthèse, c'est que je pense, Saint Jean-Paul II nous a montré l'importance d'être à l'écoute de la jeunesse. Hier soir, on a eu ce témoignage très intéressant sur l'e-sport, qui est un domaine encore que je découvre, où je voyais un jeune prêtre engagé dans la pastorale auprès des gens à travers les jeux vidéo. C'est extraordinaire. Et ça veut dire qu'on va à la rencontre des jeunes. Et donc, la vision de la jeunesse est essentiel, je pense, pour toute réflexion pastorale. D'ailleurs, en expliquant l'origine de ce mouvement, ce congrès, et puis l'équipe Église et Sport, vous n'êtes pas parti de ah, pourquoi les jeunes ne sont pas là où nous sommes? C'est où est-ce qu'il se passe des choses intéressantes avec des jeunes, et là, allons chercher ça. Donc, c'est un peu par rapport à ça. Donc, dans ces trois domaines, je voudrais interroger un petit peu cette question du sport. Mais j'aimerais commencer d'abord par la question qui est le sport? Alors, je ne dis pas quoi. Je ne dis pas quoi. Je dis qui est le sport. Qu'est-ce que je pense que c'est essentiel de penser d'abord à la personne qui est au centre de l'activité. Avant d'être une activité, une pratique organisée ou un lien social ou marché économique, etc. Le sport, c'est d'abord une histoire de personnes, d'hommes, de femmes, de jeunes. Et donc, parler du sport sans parler de qui fait le sport est pour moi absolument impossible. Donc, j'aimerais garder un peu l'être humain au cœur du sport. Donc, le sportif au cœur du sport. Et je pense au cœur du sport, il existe des sportifs qui ont des multiples visages. Il y a peut-être l'homme qui est bouillonnant, souffrant de chômage, qui est frustré dans sa vie et qui fait ses entraînements dans un club de rugby comme évasion pour évacuer les tensions. Ça, c'est le sportif. C'est aussi une femme peut-être sous pression psychologique qui court pour échapper au jugement du monde qui ne la valorise pas. Le sportif, c'est un jeune qui a pas de repère, qui cherche un sens à sa vie, qui est bousculé dans un monde angoissé, professionnel ou amateur, élite ou joueur de dimanche. Avant d'être un champion, je pense que le sportif, c'est d'abord un être incarné, un être avec une vie, des souffrances, des rêves. Le sport sans sportif, c'est comme le christianisme sans chrétien. C'est un phénomène abstrait qu'on découvre dans un livre raconté. Donc, si on parle de pastorale du sport, je pense qu'on doit toujours garder au centre le sportif, l'individu. Et donc, dans cette topographie, j'aimerais garder vraiment cette image de sportif. Le sportif, c'est aussi un Une brebis. J'imagine le sportif comme brebis. Parce que le sportif, il est souvent, c'est une personne blessée par le péché originel, en chemin, parfois perdue, errant, et à la quête de la voie du coach, de l'entraîneur. Un sportif n'existe presque jamais sans repère extérieur. Il s'entraîne presque jamais tout seul, toujours avec le regard d'un autre, que ce soit un collègue, que ce soit l'entraîneur. J'aimerais positionner aussi une définition du sportif comme brebis. Et donc, du coup, nous retrouvons un peu l'intérêt pastoral pour les âmes, pour les sportifs et les brebis. Deuxième définition que j'aimerais poser, c'est l'importance de l'événement sportif. Alors, on a parlé des Jeux Olympiques, on a parlé d'autres événements sportifs. Poser le sportif au centre, au cœur d'un cadre de l'événement, il me semble une manière d'aborder les problèmes dans le sport, les opportunités, les dérives, etc. Parce que l'événement est quelque part une célébration. Dans le sport, si on prend l'analogie du sport comme célébration, l'événement est une célébration, l'athlète participe. Dans le religieux, le fidèle, la petite brebis, participe aussi à une célébration. C'est peut-être aussi pour ça qu'on parle de la grande messe du football. Là, on a cette idée d'analogie entre sport et religion. Donc, plongeons-nous peut-être un petit peu dans les trois axes. La question du sport dans son organisation politique globale. J'aimerais accentuer sur deux choses. La première, c'est les modèles d'organisation, et puis d'essayer de parler dans cette topographie de problèmes, de tensions, de défis. Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons des systèmes d'organisation du sport qui sont sous tension. Et puis, une autre tendance qui va dégager des défis, je pense, c'est une décentralisation ou une déseuropéanisation de l'organisation du sport. J'ai un collègue chez moi qui aime bien décrire le sport avec sa structure, comme ça. Le CIO en haut, la Fédération internationale à gauche, la Fédération nationale, les clubs, les athlètes en bas. Parfois des confédérations, des associations régionales, la place des comités nationaux olympiques, les CNO, qui sont organisés géographiquement dans le monde, et la COJO, qui sont organisent les Jeux olympiques. C'est une structure, en fait, qui pose une sorte de pyramide du sport, ce qu'on appelle la pyramide du sport, avec des acteurs et des domaines importants comme le tribunal du sport, le CASTAS, le mouvement paralympique ou le monde antidopage. Mais cette structure du sport, elle est inséparable en fait de ses origines. Donc là, nous faisons une petite parenthèse historique sur le développement du sport et de la culture de libre association. On a entendu aussi hier des témoignages par rapport à l'idée de renouveler les patronages. Ah, il faudrait renouveler les patronages. Et on a eu un débat à un moment donné. Est-ce que ça doit venir du haut ou du bas? Et je crois que l'histoire de l'organisation politique du sport nous montre que l'organisation que nous avons aujourd'hui est le fruit d'un mouvement du bas. Avant tout, parce que c'est des origines du 19e siècle. Je vous ai mis une photo de l'école de rugby. Donc le rugby venant de Rugby School en Angleterre, où vous voyez très bien la chapelle qui est derrière. C'est la fameuse chapelle où Pierre de Coubertin est allé avoir sa vision en 1800. Oh, il faut m'aider, 80, je ne sais plus quand c'était, 83 peut-être.
C'est le début des années 80.
Voilà. Je sais pas la date exacte, je me souviens plus. Mais dans cette chapelle, d'ailleurs, on voit tout de suite devant les poteaux de rugby. Le terrain, la chapelle et l'école. trois lieux très importants dans la vie des écoles publiques britanniques de l'époque du 19e siècle qui aident à véhiculer une vision du sport qui est cette vision qu'on appelle la muscular Christianity, la chrétienté virile, musculaire, où on essaie de donner un sens à la jeunesse, principalement les jeunes garçons, parce que là, en l'occurrence, l'école, c'est les garçons, et on forme la future élite de l'Empire britannique. Ça, c'est le contexte derrière la structure des clubs sportifs. Ça vient des écoles publiques en Angleterre, des jeunes qui deviennent des adultes, qui se structurent eux-mêmes, qui créent des clubs. Alors, ces clubs créent des associations. Des associations créées, des associations nationales, l'association crée après une volonté de participer contre un autre pays, des jeunes d'autres. Donc c'est par là qu'on construit naturellement, en fait, une pyramide du sport qui arrive au 19e, 20e siècle. Et cette pyramide, elle est quand même construite sur un concept d'exclusivité territoriale. Donc c'est quelque chose qui est donné évident aujourd'hui. Pourquoi on l'interroge? Parce que au début du XXe siècle, la création des fédérations internationales, elle se fait. Là, c'est la dernière étape où on commence à construire l'organisation politique du sport par le haut. La France est un exemple absolument fascinant parce que on a cité les différentes fédérations hier, la FCF. FCSF, et puis toutes les autres fédérations qui existaient au début du XXe siècle, pour les patronages, la gymnastique et tout. En fait, il y avait tout un tas de fédérations au niveau national. Il n'y avait pas de fédération qui gouvernait tout le sport en France à ce moment-là. Donc, au moment de la création de la FIFA, par exemple, je prends l'exemple du football, en 1904, il existe plusieurs fédérations. Et c'est au moment où on doit créer une structure supranationale où on commence à mettre en place des structures au niveau national. Donc, avec l'idée d'une exclusivité territoriale. Ce qui fait que cette pyramide de mon collègue se construit avec une unicité du haut en bas. Et ce modèle, je trouve intéressant, c'est peut-être une première question que j'aimerais dégager, c'est la place de l'athlète, là. Alors, au début de cette structure, les athlètes qui deviennent après dirigeants, c'est les premières générations au début du XXe siècle, qui créent les organisations, ils sont athlètes encore, parfois retraités, etc. Donc on retrouve dans tous les niveaux de l'organisation sportive des anciens athlètes. Mais la place de l'athlète, est-ce qu'elle est vraiment au cœur du sport ou est-ce qu'elle est écrasée à la base? C'est une première question que j'aimerais poser parce que ce modèle est souvent véhiculé comme un modèle absolument important, européen d'ailleurs. Il a été même valorisé et introduit dans le traité de l'Europe en 2007. C'est les caractéristiques du modèle du sport européen. Et ce modèle est en tension aujourd'hui parce qu'il existe d'autres tendances, la privatisation. Donc face à ce modèle pyramidale du sport que nous connaissons en France, avec voilà toutes les fédérations. Il existe d'autres tendances. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité du sport, le football depuis 2 ans, 3 ans, il y a eu ce mouvement élan de créer une Super League, qui était vraiment l'expression commerciale et politique de la privatisation du sport. C'est de dire, on veut plus de la pyramide. Donc, toute cette pyramide qui finalement anime toutes vos activités et structure les activités qui montent jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris et des Holy Games de l'année prochaine, elle est en tension et elle est menacée par une autre vision du sport qui est une vision privatisée. Alors, quelques autres. D'ailleurs, si j'ai bien compris. La décision, là j'ai mis juste, c'est le dernier article d'actualité que j'ai trouvé sur le cas de la Super League qui est en espagnol. Ce sera décidé, cette question de la légalité de faire telle et telle structure, est-ce qu'on doit respecter modèle européen ou non, un modèle de pyramide ou non, cette question sera décidée et débattue ces prochains jours à la Cour de justice européenne, et la décision sortira avant la fin d'octobre. Donc on aura une vision, soit non, on préserve absolument la pyramide du sport, ou non, peut-être les clubs professionnels peuvent faire autre chose. La décentralisation aussi s'exprime par une privatisation, ce que j'appelle une américanisation du sport. Juste quelques exemples depuis quelques années. En 2018, peut-être c'est une nouvelle qui est passée par-dessus tout le monde, mais il y a eu, pendant quelques semaines, on a discuté de la FIFA qui recevait des offres de 25. Alors, billion, c'est milliards. Hein. Milliards, pas millions. Milliards. De sociétés privées. Des investissements de capital, donc c'est les private equity du monde qui voulaient acheter les compétitions sportives de la FIFA. Donc, de nouveau, on a cette tension entre un modèle de gouvernance pyramidale basé sur des valeurs qu'on retrouvait dans les écoles du 19e siècle et un intérêt absolument privé économique. Mes collègues au CIUS qui font des études sur la gouvernance du sport dans la partie intelligence, ils ont aussi un peu tracé la croissance de différents phénomènes, par exemple l'investissement des intérêts privés américains dans des clubs de football en Europe. En 2014, il y avait un club qui avait des intérêts dans des clubs européens. Petit à petit, vous voyez 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 34 clubs de football de première division en Europe sont détenus par des intérêts privés américains. C'est des phénomènes, c'est des tendances qui sont complètement opposées à cette autre vision de la pyramide du sport. En dessous, pareil, la privatisation du sport. Là, vous avez aussi une tendance entre 2016 et 2023. De la croissance de la propriété, ce qu'on appelle la multipropriété des clubs, pour certains qui peut-être suivent ça, c'est Manchester City, si vous connaissez le nom de Manchester City, c'est détenu par les Émirats. Mais sauf que les Émirats, ils sont propriétaires aussi de d'autres clubs dans d'autres pays. Et l'idée, c'est d'avoir une privatisation de ces clubs de sport qui sont détenus, alors en l'occurrence, par un État ou par des intérêts privés et financiers. Mais ce phénomène, qui était presque rien avant 2016, devient absolument phénoménal aujourd'hui. Donc il existe une tension, et puis dans cette décentralisation, il y a aussi un concept qui est intéressant, qui nous interroge aussi sur des questions du sens dans le sport, c'est cette privatisation par un État. Alors ce n'est pas quelque chose de nouveau, on l'a déjà vu avec la Chine ou le Qatar, qui se sont présentés comme des propriétaires du futur du sport. Mais le régime saoudien qui a acheté des grands clubs, qui veut acheter la Formule 1, qui veut faire tout un tas de politiques du sport, dans ce concept de sport washing, qui est ce lavage de la réputation et de l'argent à travers le sport, est souvent critiqué aujourd'hui dans les médias. Même la FIFA, on en parlait d'ailleurs à midi avec certaines personnes à table, la FIFA, qui est une fédération basée à Zurich, aujourd'hui ne l'est plus. Elle est devenue une multinationale avec des bureaux à Paris, des bureaux à Miami et des bureaux. Donc la réalité du système de politique du sport est complètement transformée aujourd'hui. Ce qui va poser, je pense, quelques défis. J'y reviendrai. Le sport comme planète sociale. Donc, deuxième élément. Après la question de l'organisation politique, j'aimerais évoquer un petit peu l'aspect social du sport. Le XXe siècle, là, du coup, je vais passer sur un petit regard historique pour parler de la première tendance du sport qui part de la fraternité à la compétition. En fait, ça fait écho avec certaines choses qu'on a entendues déjà depuis un jour. J'aimerais évoquer aussi la question des abus, des fragilités, parce que c'est un élément dans l'aspect social du sport important. Et puis, on finira avec l'identité du sport en crise. Le sport comme activité qui rassemble la jeunesse Et quelque chose de, voilà, on en a parlé depuis hier matin. Là, je vous donne quelques exemples du premier tournoi international de la FIFA, qui est devenu après un tournoi continental, qui a ses origines en 1948 comme une idée de rassemblement, de rapprochement des personnes après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a une vision du sport comme un rapprochement de personnes. Assez rapidement, on a une autre logique qui concourt avec la logique de la fraternité. Une logique économique et professionnalisante, parce que pendant les années 50, beaucoup de pays deviennent de plus en plus professionnels dans le sport. Et vous voyez là, en haut à gauche, vous avez la photo de groupe de toutes les équipes qui ont participé ensemble, qui ont vécu ensemble pendant à peu près 10 jours au tournoi en Angleterre en 1948, qui ont vécu un peu dans l'esprit d'un village olympique, l'idée d'avoir de la fraternité, de l'échange. Après, on descend vers 1954 et on devient tout de suite un événement politisé avec des équipes qui représentent les pays. J'ai entendu Katie à la radio tout à l'heure dire, quand j'ai pris conscience que je représentais mon pays, c'était complètement autre chose. Et l'instrumentalisation du sport de la jeunesse pour représenter le pays transforme complètement le sport au XXe siècle. D'une vision où le football peut rapprocher les personnes, ce qui était je vous mets un document rédigé par le président, l'ancien président de la FIFA, Jules Rimet, en 1954. Il a écrit un essai magnifique de 8 pages qui reprend beaucoup des idées de Pierre de Coubertin aussi sur le rôle fraternel du sport. Pour illustrer aussi cette tension vers la compétition et où on quitte l'idée du sport pour la fraternité, j'aimerais parler de ce petit jeune qui s'appelle Massimo Ottolenghi. En 1981, il est champion du monde dans un tournoi junior en Argentine, qui est un championnat moins 15 ans. Et puis après, il devient professionnel vraiment de très moyen niveau. Il joue en deuxième division. Il a joué à peu près 140 matchs en deuxième division. Il n'a jamais joué pour la sélection italienne. Mais à 14 ans, il était champion du monde. Il était élu meilleur joueur du monde. Sauf que il s'appelle plus Massimo Ottolenghi quand il est professionnel. Il s'appelle Massimo Pellegrini. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est qu'en 1981, au tournoi junior, qui est censé être pour le bien du développement humain des jeunes, je vous traduis le gros titre de la stampa, qui est la grande presse italienne, Falso dell'Inter, c'est un faux. Donc on a triché dans le mondial des jeunes. Donc en fait, Massimo Ottolenghi, en 1981, avait plus que 15 ans. Il jouait, alors ses éducateurs, ses entraîneurs ont changé sa date de naissance pour faire en sorte que le meilleur joueur de la catégorie d'âge supérieur puisse jouer. Pourquoi? Pour gagner. Et donc, on a cette tension d'un sport de jeunes qui veut être un sport rassembleur de fraternité, qui commence petit à petit, pendant le XXe siècle, à devenir plus proche de la profession et où l'enjeu est vraiment de gagner et de devenir professionnel. Sauf que, évidemment, c'est intéressant, même un jeune qui était le meilleur jeune du monde en 1981 devient personne en tant qu'adulte professionnel. Donc la précarité doit nous interroger un petit peu là-dessus. Autre question dans le lien social. Partout, alors on a eu beaucoup, beaucoup d'échos depuis 1 an et demi, 2 ans, sur les problèmes dans l'église par rapport à la pédophilie. Sauf que, on voit et on constate que les problèmes d'abus de la jeunesse n'est absolument pas contraint à l'église. Et d'ailleurs, un immense problème actuel dans le sport, c'est gérer ce rapport à la jeunesse. Et la gymnastique aux États-Unis est passée par un scandale absolument énorme qui a touché des générations de gymnastes de la sélection américaine. En haut à droite, il y a eu des centaines de garçons qui sont passés par le club de Celtic de Glasgow, qui ont été abusés en tant que mineurs par leurs entraîneurs. Et ça a été évidemment effacé, couvert, on n'en a pas du tout parlé, puis c'est ressorti 40 ans plus tard. Le monde du patinage, vous l'avez peut-être suivi en France, mais c'est aussi en Belgique. Il y a eu des problèmes de violence sexuelle et d'abus par les entraîneurs. Donc, lorsqu'on voit le lien social et l'importance du social dans le sport, je pense que on peut s'interroger aussi sur des questions de défi pastoral, sur la question de la jeunesse et les abus et les fragilités. Et puis, je toucherai un dernier mot, c'est une montée aussi de ce concept de ce que le CIO appelle safeguarding, qui est la protection du fragile et du pauvre. Et je crois que c'est un mouvement assez intéressant. Voilà, dernier point sur l'aspect social, c'est la crise d'identité dans le sport. Il existe, je vous ai mis une image tout en haut de Caster Semenya. Vous reconnaissez, je pense, c'est une coureuse exceptionnelle, championne du monde à plusieurs niveaux d'Afrique du Sud, qui a été après interdite de compétition pendant plusieurs années. Ça remonte à 2011, entre 2009 et 2011, parce qu'elle courait trop vite, elle dérangeait. Et en fait, on se disait, mais en fait, c'est pas vraiment une femme. Elle gagne parce que c'est pas vraiment une femme. Et suite à ça, les règlements de la Fédération d'athlétisme ont été changés pour faire en sorte que Madame Semenya, si elle voulait participer aux courses au niveau international, elle devait se doper. Donc, je dis bien, elle devait se doper pour faire baisser la production naturelle de testostérone qu'elle avait dans son corps. Parce qu'elle fait partie des rares personnes intersexes qui est une femme, biologiquement parlant, mais qui produit beaucoup de testostérone pour une femme. Et donc, du coup, ça lui donnait un avantage. Un avantage. Et alors, cette question de la performance fait, je pense, pousser une crise d'identité dans le sport, de qu'est-ce que c'est finalement l'homme et la femme. On a beaucoup de questions là-dessus. Récemment, Madame Semenya a gagné au tribunal, à la Cour de justice des droits de l'homme. En fait, elle est allée jusqu'aux droits de l'homme pour montrer en fait qu'elle avait le droit d'être qui elle était, sans qu'on puisse lui obliger de se changer. Ce qui est évidemment différent de la question du transgenre. Et il existe une confusion extraordinaire dans le monde du sport, et je pense dans le grand public, entre la question du transgenre et l'intersexe. Puisqu'il y a une telle pression d'équité, on entend beaucoup parler de cette question d'équité dans le sport, etc. Il y a aussi le phénomène transgenre, c'est pour ça que je mets ça sous crise d'identité. Je vous ai mis la photo de deux nageurs américains ou américaines. En tout cas, celle de droite, elle est américaine. Celle de gauche, c'était un garçon qui était à l'université. Tous les deux, c'est des universitaires, des athlètes d'université. Et monsieur, je me rappelle plus de son prénom avant qu'il dise non, non, je me sens une femme et j'aimerais nager dans le sport féminin. Et donc du coup, il a explosé tous les records depuis 2 ans dans les championnats universitaires américains. Il vit dans le vestiaire féminin alors qu'en fait, c'est un homme biologique. Mais sous pression d'équité, évidemment, l'association universitaire du sport aux États-Unis ne veut pas l'exclure. Donc, du coup, il existe une tension extraordinaire là, très compliquée, mais qui déséquilibre un peu l'identité du sport finalement. Je passe au troisième point, l'économie du sport. Quatre petits points que j'aimerais peut-être aborder. Le poids et la chance du commercialisme, la notion des paris, parce que je pense que dans l'univers du sport, les paris sont très importants. la question des transferts, et puis le dernier, c'est un modèle de professionnalisme pour les femmes. Ici, je toucherai un mot. Dans cette évolution du sport des jeunes pendant le XXe siècle, je vous ai touché un tout petit mot, je pourrais faire un cours entier sur sport et jeunesse en XXe siècle, mais il y a un glissement, une tendance de la fraternité vers la compétition et la professionnalisation du sport des jeunes. Et le poids du commercial y est pour quelque chose. Dans les années 1970, est arrivé un nouveau président de la FIFA, Monsieur Avalanche, qui se voit à gauche en train de donner le trophée de la première Coupe du Monde junior en 1977, qui a eu lieu en Tunisie, le tout financé par Coca-Cola. Et j'aimerais attirer peut-être l'attention sur les liens entre commercialisme et les multinationales Coca-Cola, qui ont donné et versé énormément d'argent dans le mouvement sportif. C'est encore le cas aujourd'hui. Le CIO touche beaucoup d'argent de McDonald's, de plein de sociétés. Alors, c'est souvent utilisé, c'est une opportunité, et ça l'a été depuis presque 50 ans dans le sport des jeunes, dans le football. La FIFA a dépensé énormément d'argent pour développer le sport des jeunes. Mais ça aussi, ça représente un moment de changement dans le sport où, justement, on n'est plus dans le sport éducatif, on est dans le sport préparatif pour le professionnel. Alors vous, ceux qui accompagnaient les aumôniers, etc., je pense que vous connaissez très bien ce phénomène-là. J'ai entendu hier quelqu'un parler de cette pression où on est censé accompagner les jeunes, mais c'est plus drôle, c'est plus pour le plaisir, c'est plus pour les faire grandir, c'est parce qu'il faut accomplir tel et tel niveau, il faut devenir professionnel, etc. Donc, il existe une tension aussi ici entre commercialisme et jeunesse. Un mot sur les paris. Alors, les paris aussi, un mode de financement du sport international, un mode très important les exemples de la Française des Jeux, qui est très importante en France, mais beaucoup de paris, système de paris existent aussi partout dans le monde. Mais ce n'est pas sans effet sur, de nouveau, je reviens à la place centrale de la tête, du sportif. Le sportif lui-même est concerné par la question des paris. Ça, c'était cet été, la commission de discipline de la LFP, de la Ligue française de football, qui a sanctionné plusieurs joueurs qui pariaient sur les matchs dans lesquels ils jouaient. Alors que c'est des professionnels très bien payés pour leur métier, et ils parient quand même sur leur match. Donc ça doit dégager des questions pastorales dans l'accompagnement de ces athlètes de haut niveau. Pourquoi est-ce qu'un athlète qui est professionnel va parier sur sa propre performance? Je ne sais pas, c'est des questions que je me pose. Dernier rapport de l'année dernière de l'agence Sport Radar, qui est une agence internationale qui suit tout ce qui est le monde des paris, fait un rapport chaque année sur la manipulation des matchs et la corruption, a encore évalué que l'année dernière, on a vu encore une augmentation dans le nombre de matchs où il y a des questions, et pas seulement à travers tous les sports, hein. Où il y a des risques de manipulation, des risques éthiques. Donc, de nouveau, quand on revient à la question de pourquoi on fait le sport, on doit s'interroger par rapport à des données comme ça, ce qui donne des tendances. Les transferts. Je toucherai un petit mot. Ce monsieur en bas à droite, ça vous dit quelque chose? Bon, je vais vous aider. En fait, c'est le père de ce monsieur en haut. Le monsieur en
Ah
haut,
oui, l'Argentin,
l'Argentin.
qui a perdu
Alors.
son fils dans un avion.
Alors voilà. Le monsieur en haut, c'est Emiliano Sala, qui a perdu sa vie en janvier 2019 lors d'un transfert. Lors d'un transfert. Et pourquoi? En fait, c'est un cas que j'aime bien utiliser dans mes cours parce que c'est un cas qui illustre un peu les dérives du système économique dans le sport. Pourquoi ce jeune a été transféré? Ce jeune est parti alors qu'il avait une belle carrière au SC Nantes. Il jouait très bien, mais son club devait de l'argent à un autre club. aurait bénéficié, et d'ailleurs c'est sorti dans la presse cette année, que Bordeaux était très content parce que Bordeaux serait indemnisé sur ce joueur qui est mort, qui a perdu sa vie suite à cette logique économique, de poursuite économique. Alors, il y a la performance pour un joueur de passer, de jouer en Ligue 1 et d'aller en Angleterre jouer dans la Premier League, c'est une bonne chose, certes. On est censé aller plus haut, plus fort, toujours plus loin. Mais l'enjeu derrière son transfert, a été en fait une machination économique pour satisfaire différents enjeux. Ça lui a coûté sa vie à lui, et 3 mois plus tard, son père est mort de dépression. Donc on a perdu deux personnes, deux vies, à cause d'un système de transfert. Et c'est toujours quelque chose qui m'interroge. Pour finir ici, le dernier point, avant d'arriver au défi, c'est le modèle de professionnalisation, qui est aussi quelque chose sur lequel je m'interroge énormément. Cette année, le US Open, donc en tennis, a fêté les 50 ans de l'égalité entre hommes et femmes, ce qui était voilà, censé être une grande fête, une bonne chose. Et en même temps, on est en plein boom de d'autres sports féminins, le football féminin. Il y a eu toute une campagne autour de la sélection américaine, autour de la equal pay, je sais pas, pour ceux qui ont suivi la Coupe du Monde féminine en France en 2019. C'était aussi souvent dans les journaux. Ça, c'était le dernier rapport de la FIFA sur les transferts chez les femmes. Ça m'interroge énormément. Là, c'était, là, vous n'arrivez peut-être pas à lire, mais le chiffre en bas, 140%, c'est la croissance dans les sommes de transferts. Par rapport à l'année d'avant, donc la FIFA se réjouit d'avoir plus d'argent tourné autour des transferts dans les femmes. Et je m'interroge là-dessus parce que j'ai eu la chance d'avoir la responsable du football féminin à la FIFA venir parler à mes étudiants et qui disait: Ah, mais c'est génial, on va reproduire le modèle masculin chez les femmes. Moi, ce que j'essaie de véhiculer, c'est bah, le professionnalisme, c'est le métier du sport pour l'athlète. Mais est-ce qu'on doit reproduire les mêmes mécanismes dans le sport féminin que pour le sport masculin? Je ne sais pas. Donc, je m'interroge aussi sur le modèle de professionnalisme à construire. Voilà, j'essaie de ramener tout un peu à la topographie. Donc, ça fait un voyage assez. Je vous ai fait balader, j'espère que c'est allé. Sur 3 axes. Le sport dans son organisation politique et globale. Donc, il existe une organisation aujourd'hui qui a des racines, qui a une identité, qui a une raison d'être. Avec, finalement, ça me fait penser au petit débat qu'il y a eu hier sur la question de sport et valeur. Quand Monseigneur Blacard a dit: Ah, mais je ne supporte plus le mot valeur. Alors, c'est intéressant parce que ça révèle qu'il y a des questions sur le sens des mots. Et le mot, j'ai sauté ça au début, mais le mot amateur, je crois qu'aujourd'hui, parler d'amateur, on ne parle pas du tout de l'amateur qui était au début de l'amateurisme. L'amateurisme, c'était de la gratuité, c'était aussi une certaine éducation. Et aujourd'hui, tout ce qu'on dit, c'est un non-professionnel. C'est quelqu'un qui n'est pas payé. C'est tout ce qu'on veut dire. Alors que l'amateur englobait aussi un esprit, ce qui est très différent. Donc cette organisation politique du sport, elle est inséparable de ses origines, avec des défis de déseuropéisation, de décentralisation, de privatisation. Le sport comme planète sociale, j'essaie de sortir quelques dérives par rapport à ça. La crise d'identité, je pense que c'est assez important. La question de la nature du sport des jeunes, passant d'un objectif fraternel à un objectif de compétition. La fragilité des jeunes aussi, qui me semble assez important au niveau des abus. Et puis, dans l'économie, je vous ai juste montré un peu cette tension entre commercialisme, qui est une opportunité pour le sport, mais qui est aussi un risque, que ce soit par les paris ou les transferts. Et puis, dans le modèle de construction du professionnalisme féminin. Donc, voilà, j'essaye de. Ouh, non, c'est bon. De la topographie, j'ai essayé de me dire où pouvons-nous aller pour questionner des vrais défis au niveau pastoral? Parce que je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Donc, par rapport à la question de l'organisation politique, il me semble que l'enjeu pastoral, c'est est-ce que l'organisation du sport, c'est pour le sportif ou ça repose sur le sportif? C'est une question que j'aimerais poser. La décentralisation du sport, qui est un peu comme la déchristianisation de l'Europe, hein, c'est la même chose, ça appelle un appel missionnaire. Donc, moi, je le vois souvent comme ça, à titre personnel. J'ai affaire à des étudiants qui viennent du monde entier, qui ne sont pas forcément chrétiens. Et je vis cette décentralisation dans un appel missionnaire. Je pense que c'est assez important par rapport à la question de l'organisation. Sur l'aspect social, on rejoint finalement la table ronde d'hier, par rapport à la désincarnation du sport, la crise d'identité, et la question de la dignité de l'homme. Je pense que c'est des éléments importants pour l'aspect pastoral, de comment on accompagne les sportifs. Et puis, dans l'économie, je me pose deux questions d'un point de vue pastoral, d'un point de vue de défis pastoraux. Il y a cette phrase du Christ qui est rapportée au moins dans deux évangiles, qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Et souvent, dans le monde du sport professionnel, élite, l'économie, comme on l'a dit hier, l'économie est très importante. Donc, le défi pastoral, c'est de faire en sorte que tout le monde dans le monde du sport se pose la question, mais vraiment, qui est mon Dieu? Qui est mon Dieu? Et puis je m'interroge aussi sur le grand avenir du sport féminin, parce que c'est vraiment un domaine en croissance. Et je pense que là, d'un point de vue pastoral aussi, il y a peut-être des questions à se poser d'un point de vue du modèle à choisir. L'exemple pour ça, c'était l'accord collectif qui avait été signé finalement par la sélection américaine et la fédération américaine de football, reposait sur l'idée d'avoir les mêmes revenus que les hommes. Sauf que les envies et les besoins n'étaient pas les mêmes. Donc, est-ce qu'on doit, en pensant au sport féminin, peut-être repenser à un autre modèle et réfléchir au défi? Donc voilà, j'espère que je n'ai pas fait trop long. Merci, et puis je me réjouis.